On avait commencé à parler il y a quelque temps de ce que j'avais intitulé « Comment avoir un esprit fort ?» Comment avoir un esprit fort ? Je vous rappelle qu'à travers la parole, on a vu combien il était important et nécessaire que notre esprit soit fort. Je vous rappelle que nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Et que plusieurs passages des Écritures, qu'on va relire rapidement ce matin, nous incitent à fortifier notre esprit. Et on a également vu ensemble que c'était notre part, que c'était notre travail, entre guillemets. Et en regardant la parole, on a déjà vu que pour fortifier notre esprit, eh bien, nous avions besoin de faire certaines choses. La première, c'est de nourrir notre esprit et de le nourrir correctement. C'est ce qu'on a étudié ensemble la semaine dernière, en nourrissant notre esprit avec la parole de Dieu, en mangeant cette parole, en la recevant, mais aussi en la mâchant, je vous rappelle, ce qui peut être un parallèle pour la méditer, et aussi en l'avalant, c'est-à-dire en l'acceptant, recevoir avec douceur la parole, comme il est dit dans l'épître de Jacques, pour qu'elle puisse entrer en nous et qu'elle puisse nous faire du bien et nous bâtir. Et c'est ce dont on a besoin. Donc ça, c'était une première chose qu'on a observée. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un autre des thèmes ou des exercices. Enfin, justement, c'est l'exercice. Ah, donc d'une part, nous devons nous nourrir, mais il ne suffit pas encore de se nourrir. Lorsqu'on s'est bien nourri, il faut aussi faire de l'exercice. Et si c'est vrai physiquement, c'est vrai aussi pour notre vie spirituelle. Mais avant d'observer ça de plus près, je vous propose de reprendre lecture ensemble de nos passages fondamentaux dans les Proverbes. Proverbes au chapitre 4, pour le premier. Proverbes 4 et au verset 23. Proverbe 4, 23, où il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je vous rappelle qu'ici, on ne parle pas du cœur physique, mais on parle bien sûr du cœur, c'est-à-dire notre esprit, notre être intérieur. Donc nous devons garder ou bien prendre soin ou bien nous occuper de notre esprit plus que du reste, car de notre esprit viennent les sources de la vie. C'est-à-dire que lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu la vie de Dieu, cette vie divine dans notre esprit, et maintenant de notre esprit cette vie devrait jaillir. Donc il nous faut garder notre cœur ou bien soigner ou nous occuper de notre cœur, c'est-à-dire de notre esprit, plus que de notre corps et de notre âme, parce que c'est de notre esprit que viennent les sources de la vie. On voit également que si on soigne son esprit, qu'on le nourrit, qu'on le développe, eh bien on va certainement, c'est pas seulement certainement, c'est sûr et certain, parce que des fois on a un petit peu perverti le sens des mots. Normalement, certainement, ça veut dire que c'est certain. Mais très souvent, quand on dit certainement, ça reste une supposition. C'est pour ça que je corrige, mais on va dans tous les cas et indubitablement avoir plus de la vie de Dieu qui va se manifester en nous, puisque la Bible déclare que de notre cœur ou de notre esprit jaillissent les sources de la vie. Donc si on a un esprit fort, eh bien cette vie de Dieu va pouvoir jaillir avec force sur tout notre être. Vous rappelez de ça? L'autre passage qu'on avait pris également dans les Proverbes, c'est le chapitre 18. Proverbe 18. Et au verset 14, où il est écrit « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» Donc à travers ce passage, on peut comprendre, entre autres, qu'il est important justement d'avoir un esprit fort, puisque lorsqu'on est dans une maladie ou dans une difficulté, eh bien notre esprit va nous soutenir. Et non seulement il va nous soutenir, mais il va nous soutenir et nous fortifier pour que nous puissions sortir de cette situation-là. Donc l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, on peut dire aussi dans toute situation. Si vous avez un esprit fort, vous êtes fort. Vous demeurez ferme, vous sortez des situations dans lesquelles vous êtes tombé. Et mieux encore et plus encore, en fortifiant votre esprit, vous pouvez éviter de tomber dans certaines difficultés et situations. Donc ça, c'était les deux passages de référence dans Proverbes. Et on avait constaté également que si on avait besoin d'avoir un esprit fort, il ne suffisait pas de prier et de dire à Dieu, Seigneur, fortifie mon esprit, mais que Dieu nous avait déjà donné des instructions, et notamment à travers Josué, on ne va pas le relire, mais où plusieurs fois, dans le premier chapitre de Josué, lorsque Dieu appelle son serviteur, il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Donc c'est à Josué et c'est à chacun d'entre nous de nous fortifier et de prendre courage. Mais je vous rappelle que lorsqu'on a bien compris que je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps, je peux me fortifier parce que c'est mon esprit qui va commencer à influencer mon âme, c'est-à-dire mes sentiments, mes émotions et même mon corps qui peut vivre certaines difficultés ou faiblesses, mais je peux me fortifier moi-même parce qu'en fait c'est mon esprit qui va fortifier le reste de mon être. Voilà, donc ça c'était nos passages de référence. Donc on avait parlé de comment se nourrir, je ne reviens pas dessus, mais qu'il fallait une bonne nourriture. Et je vous propose de revenir dans ce passage de la première épître à Timothée. Première épître à Timothée. 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4. Donc l'apôtre Paul donne des instructions à Timothée sur la manière dont il doit exercer le ministère. Et on va prendre à partir du verset 6, 1 Timothée 4, verset 6, où il est dit « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. » Donc ça, c'était la première chose, se nourrir. Ensuite, repousse les contes profanes de vieilles femmes. Et verset 8, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Donc là, on voit que Paul dit à Timothée d'abord de se nourrir des paroles de la foi, c'est une chose, on l'a étudié, et ensuite il lui dit aussi de faire de l'exercice. Et il va lui dire l'exercice corporel, c'est-à-dire physique tout simplement, est utile à peu de choses. Mais la piété l'est à tous égards, on pourrait dire. Donc on voit ici qu'il est important de faire de l'exercice aussi pour notre esprit, de ne pas juste rester comme ça à manger, à se nourrir, mais il faut faire de l'exercice. Vous savez, c'est très très à la mode, d'ailleurs, on a ces slogans maintenant sur beaucoup de publicités alimentaires ou même qui passent parfois des spots à la télé ou à la radio où ils disent pour être en forme qu'il faut se dépenser, qu'il faut pratiquer une activité physique, bon, qu'il faut manger aussi des fruits et légumes, 5 fruits et légumes par jour. Voilà, on nous demande de manger certaines choses qui sont bonnes, de ne pas manger certaines choses qui sont moins bonnes, pas trop salées, pas trop sucrées, et de faire de l'exercice. Ça fonctionne ensemble. Et même si vous mangez sainement, si vous ne faites pas d'exercice, ça ne c'est pas suffisant. Et vous savez, il existe beaucoup d'émissions télévisées ou même de choses qu'on peut avoir sur DVD, tout ça, que vous pouvez mettre, et certainement que nos chères sœurs seront plus au courant, mais que vous mettez et puis vous voyez une dame qui est là en train de faire de l'exercice et vous êtes supposé faire la même chose en face. C'est des DVD ou des cassettes de fitness et tout ça. Mais si vous mettez votre cassette de fitness et d'exercice à l'écran et que vous êtes assise dans votre canapé en train de manger un bol de glace, ça va vous servir à rien. D'accord. Si vous voulez que ça serve à quelque chose, il ne faut pas juste regarder les exercices qui sont à faire, mais il faut les faire, il faut les pratiquer. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, c'est vrai, il faudrait que je fasse du sport », mais il ne suffit pas de dire qu'il faudrait en faire. Si tant que tu n'en fais pas, ça ne te fait pas du bien. Ça ne t'est pas utile. Et on a besoin de faire vraiment de l'exercice, je parle même physiquement, si on veut être en bonne santé, si on veut s'entretenir, si on veut être bien, il faut le faire. Mais il faut le faire réellement, il ne faut pas juste y penser ou même regarder les autres. Et ici, on est pas mal placé parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent devant la maison en train de faire leur footing et tout ça. Mais c'est pas juste en regardant les gens faire leur footing que ça va me servir à quelque chose. Il faut que moi-même, à un moment donné, je me bouge et que j'aille faire du sport. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Et en ce qui concerne la parole de Dieu, quelquefois on regarde certains frères et sœurs qu'on estime être bien et être des modèles. Parfois on regarde les pasteurs ou bien on regarde des gens et on dit « Waouh, ils font vraiment Ah, ils sont bien, j'aimerais être comme eux, mais on reste assis. On dit j'aimerais être comme lui, mais on ne prend pas le temps de chercher peut-être qu'est-ce que la personne fait pour se développer spirituellement, pour devenir forte et pour être utilisée par Dieu. Et très souvent, on peut être assis là à regarder des gens ou à caresser dans nos cœurs le désir de pouvoir servir le Seigneur, d'avoir certains résultats, mais tant qu'on est juste à regarder ce que les autres font, eh bien ça ne va pas nous aider. On a besoin nous-mêmes de se mettre en action et de commencer à faire de l'exercice. Et ça, c'est vraiment, vraiment important et indispensable. Donc, pour faire de l'exercice, il faut commencer par prendre la décision. C'est une chose. Et après, ça demande aussi des efforts. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément naturel. Souvent, on est obligé de se forcer un petit peu. Mais c'est important. Puisque la parole déclare ici que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété l'est à beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il met en parallèle l'exercice physique avec la piété ? Parce que la piété, ce n'est pas juste une position, ce n'est pas juste croire la parole, ce n'est pas juste dire qu'on est des chrétiens et qu'on veut vivre pieusement, mais la piété est aussi une action, un exercice. Sinon, ce ne serait pas mis en parallèle. Donc, il dit « exercez-vous ». D'ailleurs, il lui dit au verset 8 « exerce-toi à la piété ». C'est-à-dire que même la piété, ce n'est pas quelque chose qui est comme ça, un concept général et qui vous tombe dessus une fois pour toutes. C'est quelque chose qui s'exerce, qui s'exerce. Alors, on va regarder aujourd'hui ensemble quelques exercices qu'on peut faire, certaines choses qui sont des exercices pour notre esprit. Ça vous intéresse ? Parce que je ne vais pas vous faire un cours pour l'exercice physique, vous n'avez qu'à acheter un DVD ou regarder la télé, mais ce n'est pas mon rôle, mais je veux bien qu'ensemble on regarde certains passages de la parole pour voir comment on peut faire de l'exercice pour notre esprit. Parce que ce que je vous apporte comme message depuis qu'on a commencé, comment avoir un esprit fort, c'est pas juste des choses un petit peu floues et il faut pas que ça paraisse, c'est très concret, c'est pas des concepts abstraits en disant qu'il faut nourrir notre esprit, qu'il faut l'exercer, c'est pas juste parce que ça sonne bien, c'est des vérités et on a réellement besoin de nourrir notre esprit, ça on l'a étudié, mais aussi de l'exercer. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui sont des exercices pour notre esprit qu'il est bon de faire. Alors le premier, on va regarder dans l'épître Jacques. Jacques, c'est quelqu'un qui est très pratique. Moi, je l'aime bien pour ça. Il est beaucoup en train d'insister sur le fait qu'il faut pratiquer les choses, qu'il faut mettre en pratique, qu'il faut poser des actes, faire des œuvres, bon, sans tomber non plus dans l'excès qui consisterait à vouloir faire des œuvres sans la foi, mais il montre combien les œuvres sont complémentaires à la foi et combien on doit être pratique. Et c'est pour ça qu'elle est bien cette épître. Toutes les épîtres sont bien, mais celle-ci spécialement quand on veut parler de pratique ou de vie chrétienne pratique, ouais, si on veut, eh bien Jacques, c'est pas mal. Il y a des bonnes choses. Alors Jacques chapitre 1, on va prendre le verset 22. Où il est écrit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc, un exercice pour notre esprit, c'est de mettre en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Vous savez, la parole, pour la mettre en pratique, il nous faut déjà la lire, la recevoir, et ensuite agir en conséquence, tout simplement. Mettre en pratique la parole, ça veut dire agir en conséquence de ce que nous enseigne la parole de Dieu. Ça, c'est un exercice pour notre esprit. Parce qu'on ne pratique pas la parole. Alors, bien sûr, ça peut nous amener à poser certains actes avec notre corps. Ça peut nous amener à travailler nos façons de penser, nos mentalités dans notre âme. Mais au départ, c'est à partir de notre esprit qu'on décide et qu'on pratique la parole. Parce que la parole vient impacter, on pourrait dire, ou vient s'inscrire dans notre esprit. Et maintenant, de notre esprit, eh bien, nous allons envoyer des informations vers notre âme et notre corps. En lui disant, la parole de Dieu dit ça, voilà comment il faut que ça fonctionne. Donc, pratiquer la parole, c'est un exercice spirituel, ou un exercice pour votre esprit. Maintenant, Bien sûr que nous devons pratiquer la parole, c'est-à-dire faire ce que la parole enseigne, mais nous ne pouvons pas le faire sans être dans la foi. Donc un autre exercice, on pourrait dire, mais ça fonctionne ensemble, c'est de vivre par la foi, la vie par la foi. C'est un exercice pour notre esprit aussi. Parce que la foi, c'est pas juste une adhésion à une idée ou à une vérité, la foi, c'est quelque chose de pratique. La foi, ça veut dire croire dans son cœur, mais aussi confesser de sa bouche, proclamer, et bien sûr, ça va nous pousser à pratiquer la parole. Donc ça fonctionne ensemble, croire la parole et pratiquer la parole. Et la foi, c'est pas juste une adhésion ou le fait de dire oui, je suis d'accord. La foi, c'est une action. C'est je crois, et parce que je crois, ça m'amène à confesser et à vivre ce que je crois de la parole de Dieu. Vous savez, quand vous êtes venu au Seigneur, quand vous êtes né de nouveau, comme on dit, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez entendu la parole de Dieu, vous avez entendu l'évangile, et à un moment donné, qu'est-ce que vous avez fait après? Vous avez cru dans votre cœur, vous avez cru que c'était la parole de Dieu, que c'était bon pour vous, et ensuite, normalement, vous avez confessé cette parole. C'est-à-dire que vous avez fait une prière, qu'on appelle parfois la prière du pécheur, c'est ce qui vous a amené au salut. Et Romains 10 nous donne cette indication et nous dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut et en confessant de la bouche qu'on obtient la justice. Donc il faut croire du cœur et confesser de la bouche. Nous l'avons tous fait pour naître de nouveau un jour, mais c'est quelque chose qui n'est pas que valable pour le salut. C'est valable dans tous les domaines de votre existence. Si vous voulez exercer votre esprit, avoir un esprit qui est en activité, eh bien vous devez vivre par la foi qui consiste à croire et confesser. Pour le salut, mais aussi pour tous les domaines de votre vie. Quand vous proclamez la parole de Dieu dans votre vie, vous faites de l'exercice pour votre esprit. Parce que vous n'êtes pas juste en train de dire quelque chose qui vient de votre intelligence, vous n'êtes pas juste en train de lire une chose quelconque, mais vous êtes en train de parler la parole de Dieu. Et je vous rappelle que Jésus disait « Mes paroles sont esprit et vie ». Donc les paroles de Dieu vont toucher et vont travailler au niveau de notre esprit. Donc un bon exercice pour notre esprit, c'est aussi de proclamer la parole de Dieu. C'est-à-dire de prendre la parole et de la parler, de parler en conséquence, de citer des versets, de proclamer la parole de Dieu. Parce que ça met notre esprit en activité. Quand vous parlez la parole de Dieu, quand vous la méditez dans votre vie, vous amenez votre esprit à travailler dessus. C'est un exercice pour l'esprit. Et vous activez la vie de Dieu qui est là à l'intérieur de vous. Je vous rappelle, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc quand vous proclamez la parole de Dieu, en fait vous proclamez ou vous appelez ce qui est là présent dans votre esprit. La Bible déclare par ailleurs dans Romains 4 que la foi appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. En fait elles sont déjà dans l'esprit, mais le fait de les parler, de les appeler, vous les amenez à l'existence. Donc on croit du cœur, c'est-à-dire dans notre esprit, pas dans notre tête, et on proclame avec notre bouche. Donc un exercice pour notre esprit, pratiquer la parole et vivre par la foi qui est en rapport, puisque votre foi va vous amener à confesser la parole de Dieu. Voilà. Ensuite, un autre exercice pour votre esprit, c'est dans Galates. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, on va prendre le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, un exercice encore pour notre esprit, c'est de marcher selon l'esprit. Alors, selon l'esprit, selon le Saint-Esprit. Mais je vous rappelle, selon Romains 8, que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va parler à notre esprit. Et maintenant, il nous appartient de marcher selon ce que le Saint-Esprit nous a dit dans notre esprit. Donc c'est un exercice pour notre esprit. Nous apprenons à notre esprit à prendre ce que le Saint-Esprit lui dit et à fonctionner en conséquence. Et ici, il est dit donc dans Galates, marchez selon l'esprit et quoi? Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça, c'est un très bon exercice parce qu'il va avoir pour avantage de rendre notre esprit plus fort. Et quand votre esprit devient plus fort, automatiquement, ce qu'on appelle la chair c'est-à-dire ceux qui en nous ne confessent pas Christ et ne se soumettent pas à Dieu, eh bien va perdre de sa force et va devenir de plus en plus faible. Et souvent ce qu'on fait, et je sais que je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est une vérité vraiment importante, c'est que plutôt que d'essayer de combattre la chair et de se battre contre ce qu'on sait qu'on ne doit pas faire et qu'on voudrait arrêter de faire, eh bien il vaut mieux commencer à marcher selon l'esprit. Parce que alors que tu marches selon l'esprit, tu n'accompliras plus les désirs de la chair. Mais pendant que tu es en train de batailler contre la chair par tes propres forces, par tes propres ressources, eh bien tu passes ton temps à tourner dans ces choses-là et finalement ben, ça ne s'arrange pas et parfois même ça empire. Alors que si tu prends le temps de marcher selon l'esprit, c'est-à-dire de chercher la pensée de Dieu et de chercher à sonder ce qu'il y a dans ton esprit, eh bien automatiquement tu vas aller dans des directions qui sont contraires, heureusement, à celles de la chair, parce que ton esprit ne peut pas pécher. Hein, la Bible déclare que l'homme, celui qui est enfant de Dieu, ne pèche pas, il ne le peut pas. En fait, c'est bien sûr que il peut nous arriver de faire des erreurs et de demander pardon à Dieu qu'il nous pardonne, mais notre esprit ne peut pas pécher, parce qu'il a été recréé lors de la nouvelle naissance, et il est donc parfaitement pur et agréable à Dieu. C'est pour ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une fois que vous êtes né de nouveau, quand des fois vous pouvez, je pense que ça nous est tous arrivé, un jour de faire une erreur, de faire une bêtise, ou même de commettre un péché, disons-le, même en étant chrétien. Mais quand vous le faites, il se passe quelque chose à l'intérieur de vous. Hein, quand vous faites quelque chose qui n'est pas bon à l'intérieur, vous êtes pas bien. Vous sentez que vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et ça, c'est simplement lié au fait que votre esprit ne peut pas pécher. Donc quand vous péchez dans votre esprit, il y a une alarme qui s'allume, il y a quelque chose qui réagit. Ça dit ça ne convient pas. Parce que dans votre esprit, vous avez la vie de Dieu. Donc votre esprit réagit. Vous sentez, ça ne va pas. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous repentez, Dieu vous pardonne et ça repart pour un tour. Mais ceci pour vous montrer que si vous marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que dans votre esprit, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien qui tourne vers le péché. Tout est parfaitement conforme à Dieu dans votre esprit. Donc plus vous apprenez à fonctionner à partir de ce qui est là dans votre esprit, et plus vous allez être victorieux sur la chair. Mais c'est pour ça qu'il est important aussi, je vous le rappelle quand même, ce qu'on a étudié la semaine dernière, que dans votre esprit vous mettiez les bonnes choses. Si vous mettez des choses bizarres dans votre esprit, forcément vous allez avoir des problèmes. Mais si vous mettez la bonne nourriture dans votre esprit et la parole pure de Dieu, vous donnez à votre esprit les munitions pour réagir et pour vous permettre de ne plus tomber dans le péché. Donc cet exercice là on pourrait l'appeler la marche par l'esprit. Et on va lire le verset 22, un petit peu plus loin de toujours Galates 5, on va prendre le verset 22. Et on l'avait lu dans la première partie quand on avait regardé certains avantages d'un esprit fort. Mais ce sont des choses que nous devons aussi exercer. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre ces choses. Et ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc là encore, il nous dit, maintenant que vous avez été régénéré, que vous vivez par l'esprit, marchez selon l'esprit. Hein? Et on a ici... C'est ce fruit de l'esprit, on appelle, qui sont des choses que nous devons aussi exercer. Ce sont des exercices pour notre esprit. Vous savez, il n'est pas naturel forcément pour chacun d'entre nous d'être, par exemple, dans la joie, ou dans la paix, ou patient. C'est des choses qui se travaillent. On est tous d'accord, je pense, pour dire que, comme ce sont des traits plus ou moins de caractère, le caractère, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'exerce. Et laissez-moi vous dire que c'est pas parce que le Saint-Esprit est dans votre vie qu'automatiquement vous devenez bon, patient, plein de paix, etc. Non, ce sont des choses que nous devons exercer. Parce que la parole nous dit marcher selon l'Esprit. C'est à nous de décider, de dire ok, maintenant je veux marcher selon l'Esprit. Et donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi sont des choses que nous devons exercer. Et pour les exercer, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation où vous pouvez être tenté de perdre la maîtrise de vous-même, eh bien c'est là que vous devez être vigilant et dire non, le fruit de l'esprit c'est la maîtrise de soi. Donc je veux me maîtriser, je veux m'exercer. Et quand il y a une situation où ça part un peu dans tous les sens, c'est à vous de prendre sur vous et de dire non, le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Donc je me maîtrise, je ne pars pas en flèche dans tous les sens. Ou bien la patience, quand une situation où normalement vous ne seriez pas patient, et bien, au lieu de vous énerver, saisissez l'occasion et dites-vous ben ok, c'est l'occasion de travailler ma patience. Et la prochaine fois, je serai plus patient. Hein? Par exemple, dans les embouteillages ici en Guadeloupe, il y a beaucoup d'occasions d'exercer sa patience sur la route. Au lieu de s'énerver et de klaxonner, et de faire des signes à celui qui se faufile entre alors que ça fait 10 minutes que ça avance pas, et des choses comme ça, c'est l'occasion à dire bon, ok. Au lieu de s'énerver ou de dire ah, oh, il y a encore des embouteillages, dites-vous super, il y a un embouteillage. Je vais exercer ma patience. J'exagère volontairement un petit peu. On va jamais se réjouir de voir un embouteillage, mais quand vous êtes dedans, au lieu d'être là à soupirer, dites-vous ok, je vais en profiter pour exercer ma patience. Et soyez patient. Dites-vous, je vais pas laisser l'énervement monter. Soit l'énervement monter, dites-vous non, pourquoi tu t'énerves? De toute façon, ça va pas te faire avancer plus vite. Hein. Je sais pas si vous avez déjà constaté, mais c'est pas nos énervements ou notre impatience qui va nous faire gagner du temps. Donc autant en profiter et exercer ces choses. Exercer ces choses. Et c'est vrai pour chacun des éléments de ce fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix. Alors, quand on a des situations qui peuvent nous stresser, eh bien plutôt que justement de céder au stress ou de vouloir fuir ces situations-là, disons non, maintenant c'est l'occasion d'exercer la paix. La paix de Dieu qui est en moi. Et comment vous le faites? Et bien vous commencez à méditer, à proclamer les promesses de Dieu au sujet de la paix, par exemple, jusqu'à ce que la paix revienne prendre place dans votre cœur. C'est comme ça qu'on exerce. On exerce en croyant, en proclamant. C'est pareil, c'est le système de la foi qui ressort à chaque fois. Et quand vous avez une situation, vous commencez à croire et à proclamer ce que Dieu dit de votre situation. Et c'est comme ça que vous allez devenir quelqu'un qui a plus de paix jusqu'à ce que votre paix ne puisse même plus jamais être troublée. Quelqu'un qui va avoir plus de joie, plus de patience, de bonté, de bienveillance et toutes ces choses-là. Ce sont des choses qui se travaillent. Et nous devons les exercer. Et en exerçant ces choses-là, nous fortifions notre esprit dans ces domaines-là. Et ce qui fait que petit à petit, on se rend compte que on est patient sans avoir spécialement à y faire attention. On réalise que la patience a grandi dans ma vie et elle porte ses fruits. Par exemple, j'insiste un peu sur la patience, mais je ne sais pas pourquoi, certainement quelqu'un en a besoin, peut-être moi. Mais c'est vrai pour chacune de ces choses-là. Donc, exercez votre esprit. Il y a des exercices. Donc, la marche par l'esprit va nous donner d'être victorieux sur la chair. Et plus nous développons notre esprit et plus la chair ou ce qu'il y a en nous qui ne convient pas à la nature divine et qui parfois peut nous énerver, va perdre sa force parce que nous développons notre esprit et que notre esprit va pouvoir prendre le dessus. Donc, il nous faut exercer ce fruit. Vous savez, le fruit de l'esprit, vous l'avez reçu parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais vous l'avez reçu dans un état et vous devez maintenant le développer. C'est vrai pour chaque don de Dieu. Vous savez, quand Dieu vous fait un don, ce don-là, il n'est jamais à son stade de maturité ou de perfection. Quand Dieu nous fait un don, il nous fait don de quelque chose, mais nous devons le développer. Si vous prenez les paraboles, notamment sur les talents et ces choses-là, ça nous montre clairement que le Père ou bien le Maître donne des choses, mais il attend que les serviteurs les développent, les mènent à maturité, en fassent sortir quelque chose de bon. Donc c'est Dieu qui nous donne les capacités, les dons et même le fruit de l'esprit, nous le recevons parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, mais à nous de le développer. Et comment on fait pour développer quelque chose? Par exemple au sujet des muscles ou de choses comme ça, pour développer un muscle, il faut le nourrir et il faut l'exercer. Et maintenant on ne peut pas seulement se contenter d'être fort dans une partie de notre être. Même au sujet du corps, si vous exercez toujours le même muscle, peut-être qu'il va grossir, mais à un moment donné vous êtes un peu disproportionné. Il y a des gens qui travaillent que le haut de leur corps, donc ils sont très forts, très costauds, très larges, mais si en dessous ils ont deux petites baguettes de jambes, c'est pas forcément très 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 réussi comme travail. Les gens qui font de la culture physique, en général, ils ont parfois un point fort ou peut-être ils vont plus développer le haut du corps et tout ça. Mais n'empêche que vous les verrez rarement être tout chétif en dessous. En général, ils font un travail sur l'ensemble de leur corps. Ils travaillent aussi les muscles de leurs jambes, etc. pour qu'il y ait quelque chose de cohérent, si on peut dire, et qu'il y ait du volume partout. Donc on a aussi besoin de travailler l'ensemble du fruit de l'esprit. On ne peut pas juste dire, ouais, moi je suis fort en, par exemple en patience, je suis très patient, ok c'est bien, mais si à côté de ça tu manques de bonté, ou tu manques d'amour, ou tu manques de bienveillance, ou tu manques de joie, eh ben c'est pas génial, c'est comme si tu étais disproportionné. On a besoin de travailler tous nos muscles pour être équilibré. Alors, c'est peut-être, je ne suis peut-être pas bien placé pour vous parler de travailler ses muscles, hein, parce que je suis un peu... pas très développé en muscle, on va dire, mais bon, je suis à peu près équilibré quand même. J'ai pas, j'ai pas une partie que j'ai surdéveloppée et une autre. Et j'ai l'impression que parfois dans l'esprit, on a tendance à être un petit peu déformé, parce qu'on surdéveloppe certaines parties qu'on croit devoir développer, et c'est peut-être bon, mais c'est pas suffisant. Ou bien des fois, on veut super bien développer notre foi, surtout dans la prospérité. Alors là, il y a des gens, ils sont forts dans la foi pour la prospérité. Ils sont sûrs que Dieu peut pourvoir leurs besoins, ils sont sûrs qu'ils peuvent être riches, et ils ont raison. Mais si pendant ce temps, ils sont pas en train de développer le fruit de l'esprit dans leur vie, eh ben c'est comme si ils avaient rendu quelques muscles forts, mais qu'à côté de ça, le reste du corps est faible. Et finalement, le reste du corps n'arrive même pas à les porter. Et donc, ça leur sert à rien d'avoir une foi forte pour la prospérité si à côté de ça, ils n'ont pas travaillé un caractère qui va avec, parce que Dieu ne pourra pas les faire prospérer comme il le voudrait si le caractère n'a pas été travaillé. Et ça, c'est très très important, et c'est un phénomène, je crois, malheureusement trop courant dans le peuple de Dieu. Et il est bon qu'on revienne à un enseignement équilibré de la parole, et où l'on sache à la fois développer notre foi et travailler notre foi, et ça c'est excellent et c'est super bon et on le fera, mais aussi en même temps développer un caractère qui corresponde à la pensée et au désir de Dieu, pour que Dieu puisse réellement nous faire entrer dans toute la richesse de ce qu'il a prévu pour nous, mais que ça ne se fasse pas... qu'on n'ait pas juste un bras qui soit très fort, mais qu'on puisse rien soulever avec l'autre, hein, qu'on puisse être équilibré et que Dieu puisse nous confier des choses où il sache qu'il y a du solide, il y a du sérieux, on peut avancer. Et ça, c'est important. C'est important et ça va nous éviter pas mal de problèmes. Donc, exercer notre esprit, donc aussi en nous exerçant au fruit de l'esprit, en faisant travailler ses muscles. Hein, on pourrait dire, comme vous devriez travailler l'ensemble de vos muscles, et bien faites aussi travailler l'ensemble du fruit de l'esprit. Maintenant, un autre exercice pour notre esprit, là on va rentrer dans des choses vraiment très spirituelles, dans la première épître aux Corinthiens, à Corinthiens 14. À Corinthiens 14, on va prendre le verset 14. Donc Paul vient de faire un exposé sur... ce qu'on appelle les dons de l'esprit, hein, dans le chapitre précédent. Ensuite, il nous a parlé de l'amour. Et là, il est encore en train de faire des explications sur les dons de l'esprit. Mais il dit quelque chose en particulier, donc dans 1 Corinthiens 14, 14, où il est écrit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Donc, pourquoi je vous souligne ça? Parce que lorsque vous parlez en langue, et donc ça c'est un des autres exercices spirituels, c'est de prier ou parler en langue. Hein, parce que ça exerce votre esprit. Parce que la Bible nous montre que quand vous parlez en langue, c'est pas votre intelligence qui est au travail, elle est stérile, c'est votre esprit qui est au travail. Donc parler en langue, c'est un exercice pour notre esprit. Hein, donc si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, on appelle que vous avez ce signe en principe du parler en langue, utilisez-le. À un moment donné, Paul dit, moi je parle en langue plus que vous tous. Parce que Paul avait compris qu'il y avait une source de puissance de Dieu dans le fait de parler en langue. Vous prenez conscience de votre esprit, vous prenez aussi conscience de la présence et de l'action du Saint-Esprit en vous, hein, et ça vous aide à vous fortifier. Donc un autre exercice pour votre esprit, c'est parler en langue. Parler en langue. Ensuite on va aller dans l'épître de Jude. Là je vais juste vous donner encore deux éléments. La liste n'est peut-être pas exhaustive, mais il y a déjà de quoi s'exercer. Hein. Jude, et on va prendre le verset 20. Jude, verset 20. Ça va, vous avez passé le test. J'attends toujours que quelqu'un me demande le chapitre. Mais il n'y a pas de chapitre. Jude, chapitre, verset 20 plutôt. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ici, il nous dit « Priez par le Saint-Esprit ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire prier par le Saint-Esprit ? C'est pas prier en langue cette fois-ci. C'est pas non plus prier en esprit. Prier par le Saint-Esprit, ça veut dire prier en étant conduit ou bien dirigé ou bien inspiré par le Saint-Esprit. Je vous rappelle, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le reprends ici aussi, que le Saint-Esprit parle à votre esprit, ou le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit. Et d'ailleurs, ailleurs, la Bible déclare que le Saint-Esprit nous aiderait dans nos faiblesses et qu'il intercéderait en nous par des soupirs inexprimables, c'est une chose, mais le Saint-Esprit peut nous amener aussi à prier, en fait, d'une manière qu'on peut dire inspirée. Donc, prier par le Saint-Esprit, c'est-à-dire je prie intelligiblement, mais je prie des choses qui ne viennent pas de moi, mais que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, comme on dit quelquefois. En fait, il l'a mis dans notre esprit. Donc ça, c'est notre exercice. Donc il y a le fait de parler en langue ou de prier en langue, qui est bien sûr prier à partir de notre esprit, et puis prier par le Saint-Esprit, c'est-à-dire prier des choses que nous n'aurions pas prié nous-mêmes, c'est-à-dire apprendre à demander au Seigneur et à pratiquer ce qu'on peut appeler cette prière inspirée, c'est-à-dire de dire ben, Saint-Esprit, mets des paroles dans mon esprit, conduis-moi, donne-moi de prier des choses. Vous savez, sur la prière, bon, je vais pas ouvrir vraiment beaucoup la page parce que ça risquerait de durer longtemps, mais la prière, c'est pas juste le fait que des hommes ou des femmes disent des choses à Dieu ou demandent des choses à Dieu ou s'expriment devant Dieu. Vous savez, la prière, c'est une stratégie de Dieu, et l'une des façons dont Dieu désire pouvoir utiliser la prière, eh bien c'est en mettant dans nos cœurs, dans nos esprits, ce qu'il veut faire et que nous le prions. Parce qu'en fait, il y a un principe très puissant et très important selon lequel Dieu respecte les lois qu'il a instaurées. Qui fait qu'aujourd'hui, Dieu n'agit pas directement, souverainement sur la terre. Dieu, pour agir sur la terre, va toujours passer par un homme, par une femme, par quelqu'un. Et l'un des moyens que Dieu a d'agir sur cette terre, de libérer sa puissance sur la terre, ou de libérer sa puissance créatrice sur la terre, c'est à travers la prière de ses enfants. C'est-à-dire que nos prières peuvent être un outil à travers lequel Dieu parle sur cette terre, ou Dieu libère ce qu'il veut faire sur cette terre. Et bien sûr que nous, parfois, nous prions, ou nous prions en accord avec la Bible, parce qu'on sait que c'est la volonté de Dieu, et ça permet à Dieu de répondre à nos prières et de manifester sa puissance. Mais si nous nous mettons à la disposition de Dieu et nous disons, Seigneur, conduis-moi dans la prière, donne-moi de prier ce que tu veux que je prie, ce que tu veux faire, Seigneur, c'est ça, prier par le Saint-Esprit, vous allez vous rendre compte que des fois vous priez, et vous priez des choses que vous n'auriez pas pensé prier, mais qu'en fait le Saint-Esprit met dans votre esprit, et pendant que vous les priez, que vous les déclarez, eh bien vous êtes en train de, justement d'appeler à l'existence, ou de donner à Dieu l'occasion de venir réaliser ce qu'il a mis dans votre cœur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est quelque chose de très puissant. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, hein, mais en tout cas, quand je prie, ben vous priez comme tout le monde, vous priez tout ce que vous savez prier. Vous priez pour tous les sujets que vous pouvez avoir en tête ou comme ça. Et parfois, après, chacun c'est comme il veut, mais moi ça m'arrive souvent après de prier en langue à un moment. Et parfois, je me remets à prier et il m'arrive de me surprendre à dire certaines choses. Enfin, de me surprendre, bien sûr, c'est ma bouche qui parle, mais je me dis, tiens, c'est marrant, on prie des choses qu'on n'avait pas prévu forcément de prier. Et souvent, d'ailleurs, ça nous édifie. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Parfois, ça nous fait du bien. C'est comme si on s'encourage soi-même. Et à ce moment-là, vous priez par l'Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit met des choses dans votre esprit et votre prière vient juste libérer ce qu'il a mis là. Donc ça, c'est un bon exercice pour votre esprit. Apprendre à pas juste prier ce que vous savez prier, et puis après, comme vous n'avez plus rien à dire, vous dites Amen et c'est fini. Non, mais restez un moment dans la présence de Dieu et attendez-vous à ce que le Saint-Esprit vous fasse prier des choses. Et Dieu va pouvoir utiliser ça pour être en bénédiction autour de vous et même pour votre propre vie. Parce que vous allez aller au-delà de ce que vous auriez vous-même pensé. Et comme la Bible déclare que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous espérons et pensons, on ne peut pas se limiter à nos propres prières puisqu'il veut faire infiniment au-delà. Hein? Donc c'est bon de prier par le Saint-Esprit. Et enfin, je vais finir avec ça, un autre exercice pour notre esprit qu'on peut avoir, c'est la louange et l'adoration. La louange et l'adoration. Là aussi, je ne fais que le mentionner, je ne vais pas développer beaucoup sur la louange et l'adoration, c'est tout un sujet, mais la Bible nous dit que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais donc notre louange ou notre adoration, c'est un exercice aussi pour notre esprit. Vous savez, quand vous louez Dieu, que vous adorez Dieu, ou même quand on le fait dans les réunions, on n'est pas juste en train de faire un exercice de style, un exercice vocal, un exercice physique. Bien sûr que si on chante du mieux qu'on peut, c'est mieux. Que si on danse ou qu'on s'exprime bien, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Mais notre louange et notre adoration devraient être apportées à Dieu en esprit. C'est-à-dire à partir de notre esprit. C'est-à-dire que mon être entier est engagé dans la louange et l'adoration. Quand je loue et j'adore, c'est pas juste ma tête qui chante des chants qu'on connaît, qu'on a appris, mais ça monte de mon cœur, ça monte de mon esprit. Et ça, c'est agréable à Dieu. Et en fait, le fait de louer et d'adorer Dieu, ça nous habitue à faire fonctionner, à exercer notre esprit. Parce que la louange et l'adoration fait appel non seulement à nos capacités physiques, ou quoi, mais fait appel à notre esprit. Notre esprit doit être engagé. Donc voilà quelques exercices pour votre esprit dans cette série. Comment avoir un esprit fort? On a vu premièrement les avantages et la nécessité d'un esprit fort. La semaine dernière, on a vu comment nourrir notre esprit. Et aujourd'hui, donc, on a vu quelques exercices pour notre esprit. Donc, premièrement, pratiquer la parole. Également, vivre par la foi. Donc, croire et confesser la parole de Dieu. On a également vu qu'il fallait marcher par l'esprit et exercer le fruit de l'esprit dans nos vies. Et ensuite des choses telles que le parler en langue, la prière par le Saint-Esprit et la louange et l'adoration. Dans la liste pourrait peut-être se poursuivre, parce qu'il y a peut-être d'autres choses pour nous habituer à prendre conscience de notre esprit et à le développer. Mais en tout cas, si déjà vous faites ces quelques exercices-là, ça va vous faire du bien. Ça va vous aider à grandir, à prendre de l'assurance et à ramener votre esprit à sa position où la vie de Dieu va pouvoir couler sur tout votre être. Parce qu'en fait, c'est l'objectif ultime de notre partage, puisque c'est ce que la parole de Dieu nous montre. Ok ?